Et merci à vous tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Je vais aborder le thème général du séminaire sous un angle peut-être un peu particulier, un peu oblique, en tout cas en apparence. Mais si je repars du point de départ du séminaire, qui est donc le livre de Danny Trom, Persévérance du fait juif, il y a quelque chose qui peut paraître un peu étonnant dans le constat de départ, qui est cette fameuse question de savoir s'il y a une théorie politique des juifs à travers les siècles, en particulier dans les époques anciennes, quoi, disons, et puis antiques et médiévales. Et il y a une espèce d'idée admise selon laquelle il n'y aurait pas de théorie politique, ce qui peut paraître étrange au regard précisément de la place de la pensée politique dans la philosophie, en particulier dans la philosophie juive médiévale. Si on suit Léo Strauss, au moins sur ce point-là, j'ai personnellement beaucoup discuté avec Léo Strauss, un certain nombre de ses thèses, mais en tout cas, je pense qu'on peut lui accorder ce point que la philosophie juive au Moyen-Âge est... Mais au premier plan, la philosophie politique. Et c'est quelque chose qui traverse en réalité les débats sur la philosophie. Les discours philosophiques au sein de la tradition sont très fortement imprégnés de la problématique politique. Et les discours anti-philosophiques sont aussi très imprégnés de cette problématique-là. Et c'est ça que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui, donc rapport entre, ou la manière dont les discussions sur la philosophie au sein de la tradition juive s'articulent avec la problématique politique de manière générale à travers l'histoire de la tradition, et je mettrai l'accent particulièrement sur la période médiévale. Vous proposer cette étude à partir d'une série, d'une lecture et commentaires d'une série de textes qui vous ont été distribués, et où on va trouver, me semble-t-il, deux axes qui vont revenir de manière récurrente et qui sont, d'un côté, le fait d'associer ou d'identifier la philosophie, la raison, le recours à la raison, avec une forme d'exercice du pouvoir, que ce soit pour, en quelque sorte, le revendiquer ou que ce soit pour le critiquer. Et puis, l'autre axe, c'est celui de ce que j'appellerais l'identité. C'est le fait que le recours à la philosophie apparaît comme un recours à des sciences extérieures et menace l'identité d'Israël et sa survie. Voilà. Alors, on peut partir pour notre étude d'un espèce de paradigme qui est assez communément admis, lui aussi, dans la manière dont on raconte l'histoire de la philosophie juive, et qui veut que ce qu'on appelle la philosophie juive, qui est un objet très problématique et très, très compliqué, difficile à définir, c'est quelque chose qui est le résultat contingent d'une rencontre accidentelle entre deux traditions qui n'ont absolument rien à voir, qui sont absolument hétérogènes l'une à l'autre. Alors c'est ce qu'on peut lire, par exemple, dans la première citation que je vous donne, qui est tirée de l'histoire des philosophies juives de Julius Gutmann, un classique de l'histoire de la philosophie juive, qui commence son introduction pratiquement par cette phrase « Ce n'est pas parce qu'il en avait éprouvé le besoin irrépressible que le peuple juif s'est mis à la philosophie. Il l'a reçue de sources extérieures, et l'histoire de la philosophie juive est l'histoire de l'assimilation successive d'idées étrangères qui furent ensuite transformées et adaptées selon des points de vue spécifiquement juifs. » Donc, on a deux entités prédéfinies, préalablement existantes, qui à un moment se rencontrent, et la pensée juive, des penseurs juifs vont assimiler des idées extérieures. De manière générale, ce paradigme me semble très, très problématique, puisque en réalité, Il présuppose justement l'existence préalable de deux choses qui sont complètement constituées et qui donc existeraient indépendamment l'une de l'autre. Alors que dans ces histoires des philosophies juives, on va trouver des noms comme Saadia Gaon et Maïmonide, qui sont deux piliers de la tradition juive, qui ont véritablement participé à la constitution de ce qu'on entend aujourd'hui par judaïsme, par tradition juive. Ce qui fait que peut-être réviser ce paradigme-là. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est donc de déplacer un petit peu le regard qu'on peut porter sur l'idée de philosophie juive et l'aborder à travers un autre prisme que celui par lequel on a l'habitude de l'aborder, à savoir le débat entre raison et révélation. Est-ce qu'il y a un accord entre la Torah et la philosophie, entre la raison et la révélation, ou quel que soit le terme qu'on voudra bien utiliser pour désigner l'un et l'autre pôle de la relation. C'est à la fois tout à fait arbitraire le choix qu'on fait, raison, révélation, religion, prophétie, et en même temps à chaque fois très, très, très problématique. Et donc je voudrais déplacer le prisme de cette question, de cette manière de poser la question, à une autre manière qui consiste à envisager la relation entre judaïsme et philosophie, ou entre les juifs et la philosophie, à partir de la prise en compte de la situation politique des juifs, qui est celle d'une minorité juive qui est confrontée à une culture majoritaire qui a plus ou moins de rapport, quant à elle, avec la philosophie. Et donc, les relations entre les juifs et la philosophie sont toujours déterminées par une configuration particulière, par une situation particulière dans laquelle une minorité juive se trouve en rapport avec un pouvoir, une culture majoritaire dans laquelle la philosophie ou l'appel à la philosophie, l'invocation de la philosophie a une certaine place. Voilà, donc pour poser le cadre qui va nous conduire donc à envisager que certaines résistances à la philosophie peuvent aussi se lire comme les résistances d'une minorité en exil qui se sent menacée par une culture majoritaire, par une forme d'impérialisme culturel. Donc, je vais partir de ce que j'appellerais le moment antique, sur lequel je ne vais pas tellement m'arrêter, mais qui m'intéresse parce que on va y trouver les bases de la rhétorique qui va être employée dans les époques ultérieures, et en particulier à l'époque médiévale, au cours des grandes controverses sur la philosophie. Donc, précisément, la rhétorique qui va être mobilisée pour débattre de la légitimité ou non du recours à la philosophie. Alors, dans le moment antique, on peut distinguer, on a l'usage de distinguer, deux types de relations entre les juifs ou une communauté juive et la civilisation hellénistique. On a schématiquement d'un côté ce qui se passe à Alexandrie, dans la diaspora d'Alexandrie, dans laquelle on va voir apparaître dans les derniers siècles avant l'ère chrétienne, au début de l'ère chrétienne, donc un judaïsme dit hellénistique, judaïsme alexandrin, dont une des grandes productions est d'une part la Septante, donc la traduction grecque de la Torah, et d'autre part l'œuvre de Philon d'Alexandrie, qui est, si vous ouvrez l'histoire de Gutmann ou d'autres, considéré comme étant le premier philosophe juif. Et donc là, on a de la part de Philon, qui est un petit peu le représentant des juifs d'Alexandrie, une stratégie qui consiste à précisément assimiler, comme le dit Gutmann, les éléments de la culture majoritaire et les traduire dans le langage du judaïsme tel qu'il le conçoit. Ce qui se passe, en revanche, à la même période, en Eretz Israël est très différent. Alors je dis Eretz Israël, mais de manière plus générale, là où, enfin, dans les le judaïsme qui va donner ses bases, qui va donner naissance au judaïsme rabbinique, le rapport à la civilisation hellénistique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus frictionnel. Et donc, dans les textes rabbiniques anciens, on va trouver des énoncés qui portent tantôt sur le grec ou sur la science grecque, ou sur la science du grec, plus précisément, tantôt des énoncés qui portent sur ce qu'on appelle les livres extérieurs, ce qui est appelé les livres extérieurs, et qui témoignent d'une méfiance vis-à-vis des productions extérieures à la tradition juive en train de se constituer, ou ce qu'on veut intégrer dans cette tradition juive en train de se constituer. Alors, je disais que je ne vais pas trop m'attarder sur ces textes-là, parce qu'ils sont tous difficiles, en fait, à interpréter, à comprendre de quoi précisément ils parlent. Mais ils sont importants et donc intéressants pour nous, parce qu'ensuite, ils vont servir de ressources rhétorico-lexicales pour énoncer les débats sur la philosophie, le recours à la philosophie aux époques ultérieures. Donc le premier texte, le premier groupe de textes, c'est celui qui concerne le rapport à la Chochmat Yevanit. Je disais tout à l'heure la science grecque, ou la science plus précisément du grec. Il y a plusieurs passages du Talmud qui énoncent une malédiction de celui qui enseigne à son fils la science, la Chochmat Yevanit. Donc toute la question, c'est de savoir ce que c'est que cette Chochmat Yevanit. Les gens ici, Yvan, notamment, a travaillé sur cette question, essayer d'identifier ce que c'est que cette science grecque, d'essayer de la différencier de la philosophie. D'ailleurs, une sorte de consensus parmi les chercheurs pour dire que c'est pas de la philosophie grecque dont on est en train de parler, en sachant que il y a des grandes discussions d'historiens pour savoir dans quelle mesure les Chachamim connaissaient même la philosophie grecque, quel type de connaissances ils pouvaient avoir des philosophes grecs classiques. Il y en a qui pensent qu'il y a une espèce de dialogue implicite entre les Chachamim et la philosophie grecque. D'autres pensent qu'en fait, ils ont une connaissance très, 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 très faible des philosophes grecs classiques. Et donc, bon, il semblerait que ce dont il est question, lorsqu'on parle de Chochmat Yevanit et qu'on énonce une malédiction de celui qui l'enseigne à son fils, ce serait plutôt précisément un certain type d'usage du discours qui est pratiqué par le pouvoir hellénistique, lorsqu'il domine Eretz Israël. Et donc un certain usage du discours, usage codé, dit Rashi notamment dans ses commentaires, qui vise à ne pas être compris par tout le monde pour pouvoir exercer le pouvoir. Donc, encore une fois, ici je vais laisser de côté la question de savoir de quoi il s'agit précisément dans le contexte de ces discussions talmudiques, mais je relève d'emblée qu'on a une ambiguïté qui apparaît déjà à propos de cette Chochmat Yevanit, quant à savoir ce dont il est question. Est-ce que c'est la philosophie, comme le prétendront ceux qui vont invoquer ce texte à l'époque médiévale pour dire « vous voyez bien que les Chachamim interdisent d'étudier la philosophie grecque », ou bien est-ce que c'est un certain type d'exercice du pouvoir de type oppressif impérial. Et ça, c'est une ambiguïté, semble-t-il, qui va traverser l'histoire des débats sur la philosophie tout au long de l'histoire de la tradition. Donc le deuxième texte, disons, qui va servir de base aux discussions ultérieures, c'est la fameuse Mishnah du Perek Chelek. Kol Israël, Yeshlaem Chelek, la Olam Haba, tout Israël a part au monde à venir, mais tels sont ceux qui n'ont pas part au monde à venir, Celui qui dit, par exemple, que Entriat Ametim Minatora, que il n'y a pas, que la résurrection des morts n'est pas dans la Torah. Et puis, donc, on a un avis de Rabbi Akiva qui est mentionné dans cette Mishnah, qui dit Af Hakore Basfarim Achitsonim. C'est la deuxième citation que vous avez sur la première page. Donc, Rabbi Akiva ajoute, parmi ceux qui n'auront pas de part au monde à venir, bien que faisant partie d'Israël, tout Israël a part au monde à venir, mais celui qui lit dans les Sfarim Chitsonim n'aura pas part au monde à venir, va être privé de sa part au monde à venir. Là encore, ces livres extérieurs semblent n'avoir absolument rien à voir avec les sciences profanes, la philosophie grecque, etc., mais viser plus spécifiquement ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature deutéro-canonique ou intertestamentaire, donc des textes qui n'ont pas été intégrés dans le canon, dans le Tanakh, dans le canon juif, à la différence du canon chrétien, pour certains de ces textes. Donc ce sont ces livres-là qui seraient visés par l'avis minoritaire de Rabbi Akiva, mais l'expression de Sfarim Chitsonim, elle va rester, elle va profondément marquer l'histoire de la pensée juive comme étant quelque chose qui signifie que il y a précisément une pnimiut, une intériorité d'Israël, et il y a des choses qui sont extérieures à cette intériorité et qui privent celui qui touche de l'accès au monde à venir. Donc, voilà, quel que soit le sens de ces expressions, le cadre dans lequel elles sont élaborées est celui d'une méfiance politique des Juifs, d'Eretz Israël, vis-à-vis de l'hellénisme entendu comme empire et comme civilisation. C'est-à-dire que la culture grecque est assimilée à une forme politique perçue comme oppressive. Et donc ça, c'est quelque chose qui va marquer l'histoire ultérieure des débats sur la philosophie. Et je me tourne d'emblée vers, je me tourne désormais vers la période médiévale qui va donc m'occuper le plus. Donc, dans le moment médiéval, on va voir ressurgir quelque chose qui va être identifié comme étant une philosophie juive. Là encore, on peut suivre les histoires classiques de Gutmann et d'autres qui identifient un moment grec de l'histoire de la philosophie juive illustré par Philon d'Alexandrie. Et puis ensuite, après une longue période où on ne voit plus quelque chose qui s'apparente à de la philosophie juive, on voit un nouveau chapitre de l'histoire de la philosophie juive apparaître à l'époque médiévale, au Xe siècle, dans le contexte musulman, dans le contexte de l'intégration des Juifs, de fait, dans un empire qui s'est très rapidement développé, qui est donc l'empire musulman qui va intégrer la Babylonie, là où se trouvent les anciennes académies babyloniennes. Et donc, le premier auteur qu'on identifie comme étant un philosophe juif médiéval, c'est nul autre que Saadia Gaon, et notamment dans son livre, le Sefer Emunot Vedeot, écrit en arabe au Xe siècle. Mais je voudrais donc m'arrêter un petit peu sur ce livre et sur le contexte de sa rédaction. Parce que ce qu'on va observer ici, déjà, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un grand moment de l'histoire de la philosophie juive, donc déjà à l'époque antique, mais également à l'époque médiévale, et ben ça se passe dans un contexte où les Juifs sont intégrés dans un certain complexe de relations entre le savoir et le pouvoir, qui se structure dans le cadre d'un projet impérial. Le premier moment, il y a deux grands moments qu'on peut identifier. Le premier moment, c'est donc le Xe siècle en Orient, à Bagdad, avec Saadia Gaon. Le deuxième moment, c'est à l'Andalus, l'Espagne musulmane, entre le Xe et le XIIe siècle. Et chacun de ces moments, qui va voir l'éclosion d'œuvres philosophiques majeures, aussi bien musulmanes que juives, chacun de ces moments intervient dans un contexte impérial. Donc pour ce qui est du Xe siècle à Bagdad, Bagdad c'est la capitale, enfin, c'est la ville qui aura été élue capitale de l'empire abbasside, donc au moment de la bascule au 8e siècle de la dynastie Omeyyade à la dynastie abbasside. Et c'est ce moment-là qui va occasionner ce grand moment de développement des sciences, des traductions du grec vers l'arabe en passant par le syriaque, donc ce moment très 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 connu et très très souvent mis en avant pour évoquer les lumières médiévales. Il faut rappeler que cette entreprise de traduction elle se produit dans un contexte impérial. Ça fait partie d'une politique de légitimation du pouvoir abbasside proposer la constitution de cette espèce de bibliothèque universelle des savoirs. Ça se produit à l'occasion de la rencontre de fait entre l'islam naissant et les dernières écoles de la philosophie grecque. Mais voilà, donc il y a une confrontation de fait, une rencontre de fait entre deux civilisations, mais il y a une stratégie qui est adoptée par l'empire abbasside, par le pouvoir abbasside, qui consiste à essayer d'intégrer ce savoir dans la perspective de la constitution d'un empire. Et c'est aussi dans ce contexte-là que va apparaître au sein de l'islam une problématique qui est celle de savoir précisément qui on est. Donc la problématique de l'identité spécifique de l'islam par rapport avec tous ces autres types de pensées, notamment la philosophie grecque, mais pas seulement, qui ont été de fait rencontrés à l'occasion de cette expansion de l'empire très rapide, de l'empire musulman. Donc on voit qu'il y a les deux éléments que je mentionnais tout à l'heure qui apparaissent sur le devant de la scène à ce moment-là. La question de, d'un côté, le rapport philosophie, savoir et pouvoir, et d'autre part, le rapport de la question de l'identité, qui nous sommes. Et donc un des produits de cette rencontre entre l'islam et les sources grecques. Donc c'est d'un côté les traductions que j'ai mentionnées et l'émergence d'une philosophie arabo-musulmane, l'aristotélisme arabe, ce qu'on appelle la falsafa, donc la poursuite en arabe de la tradition grecque de philosophie. Et puis d'un autre côté, l'autre produit, c'est le kalam, c'est-à-dire la théologie rationnelle, une forme de théologie rationnelle qui emprunte des instruments à la pensée grecque pour essayer de à la fois défendre, mais en même temps aussi définir les croyances fondamentales de l'islam. Le kalam, c'est, parle de théologie rationnelle, de théologie apologétique. Mais je pense qu'il faut insister sur le fait que, quand on parle d'apologie, on suppose là aussi qu'il y a quelque chose qui préexiste à cette entreprise de défense de ce qu'on essaye de défendre, alors qu'en réalité, on assiste à la définition même de ce que c'est que l'islam, de ce que sont les croyances fondamentales de l'islam, par différence avec d'autres types de pensées. Et c'est cette entreprise intellectuelle que Saadia Gaon va reprendre à son compte. On parle donc à propos de sa diagonale de philosophie juive. On l'identifie comme étant le premier philosophe juif médiéval. Plus spécifiquement, plus précisément, il s'agit en fait du représentant majeur du kalam juif. Et le Sefer Imnot Vedeot, c'est un traité de kalam, mutazalit, donc une partie d'une certaine école du kalam, qui, il faut aussi le souligner, a constitué la théologie officielle de l'Empire abbasside à un certain moment, même si ces choses-là ont été très controversées et que ils ont été écartés en fait du pouvoir, mais ils ont participé à cette consolidation du pouvoir abbasside. Et Saadia Gaon écrit son Sefer Emunot Vedeot à un moment particulier de sa vie, à savoir au moment où il n'a plus le pouvoir institutionnel. Ce qui est assez intéressant, disons. Donc Saadia Gaon, c'est une figure très, très, très polémique. Il a beaucoup polémiqué avec ses contemporains, notamment avec le Reish Galouta, l'exilarque de l'époque. Il a eu à se constituer sa propre légitimité pour accéder au titre de Gaon, c'est-à-dire de dirigeant de l'académie babylonienne de son temps. Et puis il a été écarté du Gaona, donc un certain moment de sa vie, en 931. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ses grandes œuvres philosophiques, notamment donc le Sefer Imnot Vedeot, mais aussi le commentaire sur le Sefer Yetzirah. Et ça, je pense que c'est assez remarquable, parce que il apparaît que, donc on dit souvent que c'est très bien qu'il ait été écarté de ses charges institutionnelles parce que ça lui aura permis d'écrire ses grandes œuvres de pensée philosophique. Mais ce qui a l'air de se jouer dans cette rédaction de ces textes, c'est aussi la reconstitution, en fait, d'un pouvoir, d'une autorité, par une entreprise littéraire. Donc il y a une espèce de jeu qui est à l'œuvre dans la rédaction de ce texte, qui est que d'un côté, Saadia Gaon peut quand même se revendiquer de l'autorité que lui confère le titre de Gaon, qui n'a plus, en tout cas de manière temporaire, puisque ensuite il va être réinstitué Gaon. Donc il peut jouer de cette autorité pour, en fait, redéfinir de manière radicale le judaïsme, ce qu'il fait dans ce texte. Et puis, d'un autre côté, il peut essayer, par un texte qui est de facture, je dirais, très autoritaire, il peut essayer de reconstituer son autorité par une entreprise littéraire. Quelque chose qu'on va retrouver par la suite avec Maïmonide, sur lequel, a priori, je ne parlerai pas tellement, mais sur lequel on pourra discuter si vous le souhaitez. Donc voilà, alors en quoi on a ici un texte révolutionnaire ? Je ne vais peut-être pas m'attarder tellement sur les détails, puisque je ne veux pas parler trop longtemps. Donc, ce qu'il y a de révolutionnaire dans le Sefer Imnot Vedeot, c'est de tenir pour acquis que le judaïsme se définit par l'adhésion à un certain nombre de croyances. Ça, c'est l'espèce d'a priori du Sefer Emunot Vedeot, livre des croyances et des opinions, selon une traduction possible du titre. Donc, c'est un livre qui est consacré à l'examen des croyances du judaïsme et qui part de cet a priori selon lequel il va de soi que le judaïsme s'est toujours défini par l'adhésion à un certain nombre de croyances et qu'il y a un contexte nouveau, particulier, qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure, du fait de se retrouver en minorité, que les Juifs se trouvent en minorité au sein de l'islam, donc une civilisation nouvelle et qui apparaît comme particulièrement menaçante, parce que, en fait, très proche du judaïsme. Et donc, les Juifs sont dans le doute et l'obscurité, et il faut les sortir de ce doute et de cette obscurité en clarifiant leurs croyances. Voilà. Et donc, le geste révolutionnaire de Sadiagon consiste à redéfinir, essayer de redéfinir le judaïsme comme une doctrine, je dirais une doctrine monothéiste de l'unité de Dieu. Comme ça qu'il va essayer de redéfinir le judaïsme. Et alors, dans son introduction, dont je vous cite ici deux passages, encore une fois, je ne vais peut-être pas m'arrêter trop longuement dessus, on peut relever qu'il y a en fait deux stratégies qui sont adoptées par l'auteur, qui sont d'un côté la présupposition, ce que j'appelle le discours autoritatif, celui qui consiste à poser les termes du problème comme on veut les poser. Les Juifs sont dans le doute en matière de croyances, il faut clarifier ces croyances. Bah, si on dit ça, on s'est déjà donné le cadre qu'on veut se donner. Et il ne reste plus qu'à dérouler le discours théologique. Et puis, il y a une autre stratégie qui consiste à anticiper sur les objections. Et c'est ce que vous avez dans le deuxième passage, où Sadiagon met en scène un objecteur qui viendrait dire « Ah, mais comment pourrait-on se réclamer des sciences, de la spéculation rationnelle, pour clarifier les croyances, alors que tout le monde sait qu'il s'agit de choses qui conduisent à l'incroyance et à l'hérésie ?» Et donc, Sadiagon répond en disant « ce présupposé qui voudrait que l'étude spéculative est une incroyance ou conduit à l'incroyance et l'hérésie, c'est de la superstition. Il n'y a que le vulgaire qui croit une chose pareille. Les gens sérieux savent bien que la Torah elle-même prescrit de s'engager dans les sciences spéculatives. » Puis ensuite, il pose une deuxième objection qui vient de la tradition. Il dit « Ah, mais alors, laissons de côté cette espèce de présupposé populaire, méfiance populaire vis-à-vis de la science. Il y a des textes au sein de la tradition, il y a des Mishnayot qui voient d'un œil très négatif le fait de poser un certain nombre de questions, ce qui est avant, ce qui est après. » Et là-dessus, Sadiagon répond en disant, là aussi, il est évident que les sages d'Israël n'ont pas pu interdire la véritable spéculation. Ce qu'ils ont interdit, c'est une spéculation, une étude intellectuelle qui serait mal menée. Voilà. Donc, on a un premier moment fondateur de l'histoire de la philosophie juive médiévale dans lequel vous avez un auteur qui va reprendre à son compte, je dirais, la stratégie de définition de soi, de la culture majoritaire et du pouvoir majoritaire, qui va essayer de l'appliquer à la minorité juive. Alors je me tourne vers un autre auteur qui va prendre, disons, le contre-pied de Sadiagon, du moins en apparence, puisque c'est un auteur qui fait l'objet de multiples lectures contradictoires, à savoir Yehuda Halevi, qui est, donc que je vais utiliser comme un représentant d'un certain type de réaction à la philosophie, au recours à la philosophie, en Al-Andalus. Donc, on se déplace du contexte de Bagdad au Xe siècle à celui de l'Espagne musulmane au XIIe siècle. Donc, au terme de deux longs siècles au cours desquels les Juifs ont participé de ce moment particulier d'essor des sciences, de la poésie, de la pensée religieuse en Espagne. Et donc, on a dans Al-Andalus un deuxième moment de où l'essor du savoir, le développement de la science, le développement de la philosophie est inscrit, là aussi, dans une politique qui est, là encore, une politique de légitimation impériale. Puisque, pour faire simple, donc au moment de la transition de la dynastie Omeyyade à la dynastie Abbaside, le seul territoire sous domination musulmane qui va rester sous domination Omeyyade, c'est l'Espagne, dans laquelle va être proclamé un califat, qui est le califat de Cordoue. Et c'est ce contexte-là particulier dans lequel, en fait, la dynastie déchue va essayer de reconstituer ou de conserver une partie de son pouvoir en rivalisant avec ce qui est en train de se passer en même temps à Bagdad. C'est ce contexte-là qui va donner naissance à justement ce qu'on appelle l'âge d'or d'Espagne, avec donc cette promotion par un système de mécénat institué par le pouvoir politique des sciences, des arts, etc., dans lesquels les juifs vont être partie prenante et vont adopter, ils vont transposer, disons, le modèle social qui est en train de se mettre en place à ce moment-là, à leur communauté, où on va trouver aussi ce système de mécénat, on va trouver aussi des juifs qui ont un pouvoir important dans les cours politiques, qui vont promouvoir le savoir. Et donc, c'est ce contexte-là qui voit la naissance d'un certain nombre d'œuvres majeures de l'histoire de la philosophie juive médiévale, du rationalisme juif médiéval, parmi lesquelles on peut citer l'œuvre philosophique de Shlomo Ibn Gavirol, on peut citer le Chovot HaLevavot de Barkha Ibn Pakuda, on peut citer plus tard le Emouna Rama de Abraham Ibn Daoud, et Maïmonide est sans aucun doute l'héritier de cette tradition de pensée-là, même si il va écrire l'essentiel de son œuvre en dehors de la péninsule ibérique, puisque il vit au moment de l'invasion almohade qui oblige les juifs à quitter la péninsule ibérique. Mais donc, dans ce contexte-là, dans cette configuration-là, on a un auteur juif qui va proposer un livre dont la lecture la plus simple, même si là encore on peut en proposer d'autres lectures, la lecture la plus simple consiste à y voir un traité anti-philosophique qui se présente comme un texte politique, à savoir le Kuzari. Donc, ce qui permet de, disons, justifier la lecture qui voit dans le Kuzari un traité antiphilosophique, c'est d'abord le sens, disons, le plus simple du livre, où en se basant sur un épisode historique attesté dont Yehuda Halevi a eu connaissance par le biais d'une correspondance entre l'Espagne et l'Orient, il met en scène un roi, le roi des Khazars, qui va convoquer successivement les représentants des grandes écoles de pensée, des grandes religions et des grandes écoles de pensée, à savoir un juif, un musulman, un chrétien et un philosophe, pour savoir quelle est la meilleure doctrine à adopter pour son royaume. Et donc, il s'agit de convaincre le roi d'adopter, de se convertir lui-même et de convertir sa population à sa doctrine. Et donc, le paradoxe du Kuzari, c'est que c'est la religion méprisée qui va emporter la mise et qui va réussir à convaincre le roi et aboutir donc à la conversion du roi et de sa population au judaïsme. Donc, ce qui permet de valider cette lecture antiphilosophique, c'est d'abord donc, le scénario qui est présenté, où le juif l'emporte, le chaver, selon la traduction hébraïque, l'emporte sur le philosophe, et sur les représentants des deux autres religions. Mais c'est aussi un certain nombre de textes dans lesquels Yehuda Halevi critique de manière très explicite ses contemporains et cette élite intellectuelle espagnole qui est associée de manière étroite avec le pouvoir, mais aussi avec la culture majoritaire. Et vous avez une illustration de ça avec le petit poème que je vous cite là-haut, en haut de la page 2, où le poète s'apprête à partir, s'installer en Eretz Israël, où il va essayer de retourner à Sion et il va mourir sur le chemin du retour. Et donc, avant son départ, il met en scène des Espagnols, des juifs espagnols, des intellectuels juifs espagnols, si vous voulez, qui essayent de le retenir. Et donc, il écrit des choses comme ce que vous lisez là-haut. « Comment peuvent-ils lui promettre le bonheur par le service des rois qui, à ses yeux, revient à servir des idoles ? Convient-il qu'un homme intègre et droit cherche le bonheur, tel un oiseau entravé, dans les mains de jeunes gens, en se mettant au service des Philistins, des fils d'Agar et des Hittites, tandis que des dieux étrangers séduisent son cœur à chercher à accomplir leur volonté et à abandonner celle de Dieu, à trahir le Créateur en se soumettant à des créatures. » Donc c'est comme ça qu'il représente ce judaïsme espagnol, très bien intégré, de son temps. Et donc, à ce modèle d'une certaine soumission au pouvoir politique, il va opposer cette espèce de récit, on pourrait dire fantasmé, quoi, dans lequel c'est le juif qui parvient à soumettre le pouvoir. C'est le rabbin qui va parvenir à soumettre le pouvoir politique, avec une bizarrerie qui est un des grands paradoxes, à mon sens, du Kuzari, qui est que le Kuzari, c'est aussi le livre dans lequel on va trouver la forme la plus radicale d'un essentialisme juif qui veut que seuls les juifs de naissance peuvent hériter de la chose divine, la Amr Ilahi, la prophétie, hein, ce qui donne accès à la prophétie, alors que les convertis seraient irrémédiablement privés de l'accès à cette chose-là, à cette chose spécifique. Et donc là, on a un paradoxe énorme d'un texte qui met en scène cette soumission du pouvoir aux juifs par la conversion, avec en même temps l'affirmation d'une essence, d'une identité absolument spécifique aux juifs. Donc, je proposerais de lire ce texte-là comme une espèce de contre-récit de fiction, d'utopie que Yehuda Halevi vient opposer au modèle de Al-Andalus, du juif qui adopte en fait les codes de la culture majoritaire et qui les assimile en perdant en fait justement cette identité qui lui est propre. Alors comme je vois que le temps passe, je voudrais simplement peut-être pour terminer vous parler d'un dernier point que vous trouvez à la page 3 et 4, qui est la question de l'allégorie. Donc, je vais laisser de côté Maïmonide. Hein ? Je peux, mais peut-être on peut l'intégrer dans la discussion, si vous voulez. Ça fait déjà trois quarts d'heure que je parle. Je ne veux pas vous assommer. Et je pense que c'est un point qui est très très important, cette question de l'allégorie. Qui est donc un des points centraux dans la controverse maïmonidienne, dans les différentes phases, les deux phases principales de la controverse maïmonidienne. Donc juste un petit rappel très rapide du déroulement de cette controverse. Le point de départ, c'est la traduction hébraïque du guide des égarés, donc écrit initialement en arabe, en Égypte, à la fin du XIIe siècle. Donc le guide est traduit en 1204 en hébreu par Shmuel ibn Tibbon dans le sud de la France. Et cette traduction va se diffuser assez massivement et occasionner, je dirais, la perplexité. C'est-à-dire que le guide se veut un remède à la perplexité de celui qui est confronté à la contradiction apparente entre la Torah d'un côté et la philosophie de l'autre. Et donc il s'agit de lui montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Et tout d'un coup, le guide s'adresse en hébreu à des gens qui, à des juifs, qui connaissent rien à la philosophie et qui donc vont être confrontés à la perplexité. C'est un guide vers la perplexité. C'est d'ailleurs une expression qui a été employée par certains adversaires de Maïmonide à ce moment-là. C'est celui qui rend perplexe les juifs. Donc il y a une espèce de découverte de la philosophie et de sa possible contradiction avec les sources traditionnelles du judaïsme qui se fait à l'occasion de la diffusion de cette traduction hébraïque du guide à partir donc des premières années du XIIIe siècle. Et puis ensuite il va y avoir deux phases majeures de la controverse maïmonidienne. Dans les années 1230, une phase qui éclate à l'occasion de la production de textes anti-maïmonidiens, anti-philosophiques à Montpellier, qui va donner lieu à la production d'un cherem par les tosafistes contre non seulement ceux qui lisent le guide des égarés, mais même le Rambam lui-même. Il n'y a pas de distinction entre le Rambam et ses disciples. Donc il y a une mise en accusation du Rambam qui est donc déjà mort à ce moment-là, et de ceux qui se réclament de son enseignement. Et puis, donc, il va y avoir une intervention conciliatrice du Ramban qui va participer d'une forme d'apaisement de cette première phase de controverse. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que déjà dans ce premier moment, un des éléments qui est le plus mis en avant par les adversaires de Rambam, c'est la question de l'allégorie, le fait d'allégoriser les versets. Et puis il y a une deuxième phase de cette controverse maïmonidienne qui se situe au début du XIVe siècle, qui parle encore du sud de la France et qui va cette fois-ci mettre en jeu les relations entre le sud de la France et l'Espagne. Donc avec des juifs provençaux qui vont se tourner vers le Rajba, l'autorité talmudique, le décisionnaire majeur de l'époque, pour juger, proposer une décision concernant la légitimité ou non d'étudier le guide, de recourir aux sciences extérieures pour étudier la Torah. Et là aussi, on va retrouver une question qui va être centrale dans les échanges de lettres entre la Provence et l'Espagne, qui est la question de l'allégorie. Et je voudrais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Alors avec juste une petite remarque d'abord, qui est de dire que une des manières qu'on pourrait avoir de comprendre la réaction des tosafistes l'invitation qui leur est faite de trancher la question de savoir est-ce qu'on peut faire de la philosophie ou pas, est-ce qu'on peut lire le guide des égarés ou pas, sachant qu'en fait ils connaissent pas le guide avant d'être interpellés dans les années 30 par des juifs provençaux sur cette question. Ils ne connaissent pas le livre, donc ils le découvrent au moment même où ils sont appelés à décider. C'est peut-être donc, une manière de comprendre cette réaction. Ce serait peut-être d'y voir la confrontation entre deux types de rapports entre les juifs et la culture majoritaire. Deux types de stratégies de survie des juifs vis-à-vis de la culture majoritaire. On a la stratégie Rambam, disons, qui consiste en fait à en adopter complètement les codes, un petit peu ce qu'on a vu avec Saadia Gaon. Il répète d'une certaine façon le geste du Gaon, mais dans un moment un petit peu différent où il n'y a plus d'autorité centralisée, il n'y a plus d'académie, et donc il va essayer de reconstituer une autorité. À défaut d'une autorité institutionnelle, il va se reconstituer une autorité, on pourrait dire littéraire, à travers son œuvre, et par le recours à la philosophie. De la même façon que le califat Omeyyade de Cordoue avait fait ça. Il avait eu recours au savoir, à la philosophie, pour se légitimer. Et puis on a d'un autre côté la stratégie des tosafistes, qui consiste à essayer de survivre par ses propres moyens dans une situation d'hostilité du pouvoir, de la culture majoritaire vis-à-vis des juifs et réciproquement. Et donc c'est la confrontation entre ces deux choses qui se joue peut-être dans ce premier moment de la controverse, ce qui fait que les tosafistes vont réagir pas seulement à la philosophie en fait, ils vont réagir aussi à un certain type de rapport avec la culture majoritaire qui leur paraît complètement étrange, dangereux et menaçant. Donc voilà pour la première remarque. Et maintenant, je me tourne vers cette question de l'allégorie et la manière dont elle apparaît de manière récurrente dans les échanges entre la Provence et Barcelone, donc le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Adret, qui donc est très connu pour avoir mis fin à la controverse du début du XIVe siècle par un cherem qui interdit l'étude du guide des égarés de la philosophie avant l'âge de 25 ans. Une espèce de position de compromis entre ceux qui veulent l'interdire radicalement et ceux qui veulent le promouvoir dans l'éducation juive en général. Et alors, donc, ce qu'on va trouver de manière récurrente dans ces échanges, c'est la référence à une interprétation allégorique de Abraham et Sarah comme forme et matière. Certains chercheurs parlent à ce propos d'un slogan, un véritable slogan qui est utilisé dans la rhétorique des opposants à Maïmonide, qui est donc Avraham veut Sarah, Chomer veut Tzoura. Ça rime, c'est efficace, ça dit tout ce qu'il y a à dire, hein, on transpose les grands concepts de l'aristotélisme et on les plaque en fait sur les termes traditionnels et en particulier sur les figures des avotes, donc Avraham et Sarah. Avraham et Sarah, Avraham représente la forme et Sarah représente la matière. Donc une interprétation illémorphique de Avraham et Sarah dans lesquelles en fait il faudrait lire donc les récits relatifs à Avraham et Sarah comme étant une allégorie des relations entre la forme et la matière, telle que Aristote en parle. Bon, alors, c'est tout un dossier un petit peu compliqué, cette histoire. En fait, tout ça part d'une interprétation d'un texte spécifique qui est une Agada dans Baba Metzia, qui met en scène effectivement Abraham et Sarah, c'est-à-dire certains disciples de Maïmonide ont interprété cette Agada spécifique comme étant une allégorisation du rapport entre la forme et la matière. Et on va en fait généraliser cette allégorisation d'Abraham et Sarah dans ces échanges entre la Provence et l'Espagne. Alors ce qui m'intéresse, c'est Qu'est-ce qui se joue dans cette espèce d'obsession sur ce texte, sur cette allégorie spécifique? Et voilà comment les choses se présentent. Alors, on ne va pas là non plus tout lire, ce n'est pas forcément la peine, mais on a à chaque fois la même stratégie, la même idée qui se trouve derrière chacun de ces usages de cette allégorie. Alors je vous lis donc le premier exemple, ce qui s'appelle allégorie identité. C'est donc une lettre du Rajba à Abba Marie de Lunel, qui est le penseur, paradoxalement, une espèce de maïmonidien modéré, provençal, qui a lancé cette espèce de cabale, si vous permettez l'expression, contre Maïmonide. Et donc, le Rajba écrit à Abba Marie, « Ve'asher hakak hakeke avon, ve'amar im asefer, chez Abraham v'sara, homer v'tsura. » Celui qui prend des décrets iniques soutenant par écrit qu'Abraham et Sarah sont matière et forme. L'otimalet nafsho mitzara, son âme ne va pas échapper à la douleur, à la souffrance. Ve imchayhu yamut betzara bemechira. S'il est vivant, il va mourir dans la douleur et la vente. Enfin, pardonnez la traduction un peu hasardeuse maintenant. Veimethu lotiyelo mitato kapara. Et s'il meurt, sa mort ne sera pas pour lui une réparation. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite. Uve emet heid ve neemad al atzmo yoter mimea edim she eno misera Avraham. Il témoigne sur sa personne, et il est plus fiable d'ailleurs que sans témoin, qu'il ne fait pas partie de la descendance d'Abraham. Utfilato lo Ishmael. Et sa prière ne sera pas entendue par Dieu. Chez Eino gam misera Esa Ishmael. Il ne fait même pas partie de cette semence de Esav et de Ishmael. Rak me otan shedim velilin sheno ladou me chava ou me adam arishon, mais uniquement de ces esprits et démons qui sont nés d'Adam et Chava. Donc, qu'est-ce que le Rajba est en train de dire? En allégorisant Abraham et Sarah, l'auteur de cette interprétation, appelons-le le Darshan, témoigne du fait qu'il ne fait pas partie de la descendance d'Abraham et de Sarah, parce qu'il fait quelque chose qui est encore pire que ce qu'on trouve chez les chrétiens et les musulmans, à savoir allégoriser l'histoire des patriarches. Même les chrétiens, qui sont les champions de l'allégorie, ils maintiennent le sens historique des récits bibliques. Lui, il va jusqu'à allégoriser les récits des patriarches. Or, si ces récits ne parlent que de matière et de forme, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de socle, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus de spécificité d'Israël. Et donc, c'est l'identité d'Israël qui est menacée de manière essentielle par ce type d'allégorisation. Et donc, ça, on le retrouve tout au long de l'histoire de la controverse. Il y a un passage, le troisième passage que je vous ai indiqué. Tout d'un coup, le Darshan en question apparemment se ravise et dit « Oui, je suis allé peut-être un peu trop loin. On va rapporter ça au Rajba. » Et le Rajba dit « Bon, bah, ça va. » Finalement, il a réintégré, en quelque sorte, la descendance, la semence d'Abraham. Et puis, cette affaire aura laissé des marques dans la suite de l'histoire de la pensée juive, de la philosophie juive, puisqu'on va trouver une espèce de réponse à cette accusation contre l'excès d'allégorisation des philosophes chez un philosophe qui est considéré comme un philosophe radical, qui s'appelle Yosef Ibn Kaspi, qui est un auteur du XIVe siècle, un disciple de Maïmonide au XIVe siècle, qui écrit dans un commentaire sur la Torah qui s'appelle Gvia HaKesef, Ve'afalpi sheyochal lomar beguf Iyov ve're'av ki lo hayu ve'lo nivreu, bien que on puisse dire du corps de Job et de ses amis qu'ils n'ont jamais existé, lo nuchal lomar ken be'Avraham Yitzhak ve'Yaakov bnehem ki al kol panim hayu lanu avot kodmim ki lo tzamachnu me'afar. On ne peut pas en dire autant de Abraham, Yitzhak et Yaakov et leurs descendants, puisque, de toute évidence, nous n'avons pas germé de la poussière. C'est très étonnant de lire ça sous la plume d'un auteur qui est souvent considéré comme étant un philosophe radical, hétérodoxe, qui va prêter à Maïmonide des positions comme l'éternité du monde. Ben, sur ce point-là, il accorde que c'est très dangereux d'allégoriser les Avot, puisque ça remet en question l'existence même d'Israël. Donc voilà, alors je vais terminer là-dessus. On aurait pu poursuivre la discussion ou tirer le fil de cette histoire de une certaine manière de poser la question du rapport entre Torah et philosophie sous le prisme du rapport entre les Juifs et l'Empire jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine, puisque c'est aussi dans ces termes-là qu'on va retrouver la question posée notamment dans les discussions dans la controverse de Benny Lévy contre Lévinas, contre un certain Lévinas, où c'est la question de l'Empire ou de la soumission à l'Empire qui se trouve posé. Et de manière générale, je dirais que ce qui se joue dans ces discussions ou dans cette manière de poser la question de ce que c'est que la philosophie, ce que fait la philosophie aux Juifs lorsqu'ils y sont confrontés. La question qui est soulevée derrière ces débats, c'est une question qui se pose fondamentalement à la philosophie en tant que telle, et qui est la question de savoir si on peut ou non disjoindre la discipline de la raison, qui s'appelle philosophie, de son arrimage de fait à travers l'histoire à des structures de pouvoir de type impérial. Voilà. On arrête là.
Merci beaucoup, David, pour cette intervention très bonne. On va passer aux questions.
Ah, une pause. C'est pourquoi pas manger.
Vous voulez une pause?